Bienvenue à tous, chers auditeurs et auditrices, sur Aligre FM 93.1 pour l'émission Philosophie au présent, en partenariat avec le Collège international de philosophie. Aujourd'hui, samedi 23 mai, bienvenue Michele Saporetti à l'antenne.
Bonjour Isabelle Raviolo, bonjour.
Bonjour Michele Saporetti et Armand Guéry à la technique. Nous avons le grand plaisir de recevoir un invité, Jérôme Lèbre, philosophe, que je te laisse présenter, Michele Saporetti.
Grand merci, chère Isabelle Raviolo. Alors donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Lèbre. Bonjour Jérôme Lèbre.
Bonjour à tous les deux, bonjour, bonjour. Je suis très content d'être là.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à Philosophie au présent, ce programme en partenariat avec le Collège international de philosophie sous Radio Aligre FM. Jérôme Lèbre, vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure, professeur des Cagnes à Lullégrand et ancien directeur de programme au Collège international de philosophie, justement entre 2013 et 2019. Station au comment tenir l'immobilité était le titre de votre programme de recherche qui a donné lieu à l'ouvrage Éloge de l'immobilité. Alors, Jérôme Lèbre, vous êtes un spécialiste de l'idéalisme allemand et de la philosophie française contemporaine, et vous êtes de surcroît un grand spécialiste de l'œuvre de Jean-Luc Nancy, qui est une figure qui a marqué la vie du collège. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de faire une avant-première de votre ouvrage qui s'appelle « Quelle distance entre nous ?» Elle va sortir ce livre fin juin 2026 aux éditions Hermin. Comme on fait d'habitude, c'est très important aussi pour donner pas seulement l'envie de le lire, mais aussi l'épaisseur de la réflexion conceptuelle des ouvrages qu'on a le plaisir de commenter ici, chère Isabelle Raviolo, un peu la structure de quelle distance entre nous. Alors, après une introduction, nous avons la première partie, prise des distances. Après, une deuxième partie, dans quel espace vivons-nous? Et troisième partie, besoin d'espace, désir de proximité. Et là, nous trouvons vraiment tout un dictionnaire, si on peut dire, un vocabulaire de la distance entre écart, espace, densité, intensification, communauté, vide, mobilité, voilà. Énormément de sujets qu'aujourd'hui, nous avons vraiment la chance d'aborder avec vous. Alors, chère Isabelle Raviolo, je vous passe la parole pour commencer cette conversation avec Jérôme Lèbre.
Merci beaucoup. Alors c'est vrai que ce livre est ancré dans la réalité. Il pose à partir de ce mot distance une vraie réflexion philosophique, une réflexion critique sur nos rapports entre nous, sur des questions de vie privée, l'amitié, l'amour, le rapport aux collègues, aux voisins, mais aussi de vie publique.
Oui.
Et même, on peut dire qu'il questionne notre monde et la mondialisation telle qu'elle est ici présentée dans le livre, à travers notamment nos modes de vie urbains. Alors, j'ai choisi de commencer par un passage du livre pour aborder la thèse de Jérôme Lèbre, passage que je cite. « Tenter de repenser la distance, aujourd'hui, c'est essayer de resituer l'artificialité de la technique dans la matérialité du monde, donc aussi parmi tous les degrés entre réalité et virtualité. C'est essayer de mieux savoir si nous sommes trop loin ou trop proches les uns des autres. » Et quelle distance nous avons établie, devons rétablir, entre nous et les autres êtres vivants. Alors ce passage que je cite interroge, et notamment ces mots, essayer de mieux savoir si nous sommes trop loin ou trop proches les uns des autres. C'est intéressant parce que, quand dans votre introduction vous dites que trouver la juste distance entre nous est devenu un problème crucial, je vous cite, c'est une question de densité, dites-vous. Vous parlez de l'habitat dans les villes et vous dites que les villes entraînent pour tous une cohabitation souvent difficile. Au point, dites-vous plus loin, que la promiscuité devient invivable. Pourquoi, Jérôme Lèbre, le manque de distance est-il indissociable d'un trop de distance ?
Alors déjà, merci pour cette présentation. Une petite remarque juste sur le titre de cet ouvrage, « Quelle distance entre nous ?», qui n'est pas ponctué de manière très volontaire, parce que ça peut être une question. « Quelle distance entre nous ?» Ça peut être une sorte d'exclamation. « Quelle distance entre nous ?» C'est-à-dire que, voilà, on est trop loin. Ça peut être, il peut y avoir un petit côté nostalgique avec trois petits points. « Quelle distance entre nous ?» Et cette indétermination, elle est assez fondamentale. La deuxième chose, c'est déjà net dans la citation que vous avez choisie, c'est que distance sera pris tout le temps d'une manière très concrète. C'est-à-dire en effet du matériel au virtuel, mais il va être aussi question du fait que le virtuel a toujours une structure matérielle qui est très forte. Il n'y a pas d'internet sans câble, sans serveur, etc., etc., ce qui pose aussi d'énormes problèmes écologiques, etc. Donc c'est vraiment cette matérialité, en fait, je restais là-dessus, que distance ne sera jamais prise au sens métaphorique et que bien au contraire, il s'agit de défaire en permanence les citations métaphoriques pour montrer qu'en fait, elles ont un fondement dans la spatialité. Même quand on utilise distance de manière, semble-t-il, très loin de la question de l'espace, en fait, on est dans la question de la spatialité. Et alors ensuite, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pas ponctué ce titre, c'est que quelle distance entre nous, si je le pose simplement comme question, il semble que la réponse elle est métrique, qu'on pourrait dire que tous les deux, là, mes deux interlocuteurs, vous êtes à peu près à 1 mètre, 1 mètre 10 de moi. Bon, donc la question est, semble-t-il, vite réglée. Et puis après, on peut se dire, bah voilà, on est trop proche ou on est trop loin. Alors déjà, selon quel critère. Et puis, souvent, une proximité comme ça, immédiate, implique... tout de même un trop de distance, et puis quelquefois c'est l'inverse. Donc voilà, il s'agissait un peu de déplier tout cela et de voir, de faire varier ces distances, en tenant aussi toujours compte du fait que ce « nous », justement, et c'était net déjà dans ce que vous disiez, ne regroupe pas que les humains, que ça s'étend aux vivants ou même au-delà. Donc c'est aussi une manière de reposer la question des réseaux, des transports, de la technique, des relations en général dans ce monde.
Oui,
on disait justement, Isabelle Raviolo, avant, que votre réflexion est très ancrée dans la réalité, toujours très ancrée dans la réalité, aussi bien les déplacements que les voisinages, que le fait d'utiliser les transports, les réseaux même. On s'est bien dit, voilà, il y a un mot qui devient un concept, une catégorie que vous avez essayé un peu de travailler dans différents domaines et dans plusieurs directions. Isabelle Raviolo, je voulais revenir sur une petite citation de l'introduction, justement, qui fait, je me permets de faire un petit pas en arrière, parce que dans le premier paragraphe de votre introduction, Jean Lèvre, à page 3, vous citez Socrate et Phèdre avec cette grande question: où vas-tu donc et d'où viens-tu? Et moi, j'aimerais bien vous poser cette question à vous. Où allez-vous donc, Jérôme Lèvre, avec ce livre? Et d'où venez-vous, Jérôme Lèvre?
Alors, bon, d'abord, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce dialogue de Platon, et c'est vrai d'autres dialogues, mais je dirais surtout celui-là, c'est qu'on dit, bon, on pense Platon, on pense immédiatement à des gens qui sont en train de parler. Et on oublie un petit peu les préambules, qui sont toujours très précieux, parce que justement, ils sont de l'ordre de la rencontre et du rapprochement, quelquefois à plus de deux personnes d'ailleurs. Et puis là, en plus, il y a un côté érotique dans cette rencontre, dans ce dialogue-là au tout début. Et donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Alors, d'où je viens et où je vais, je dirais que je ne sais pas ni véritablement et absolument ni l'un ni l'autre. Alors, vous serez peut-être un petit peu étonné sur le d'où je viens, mais qui sait exactement d'où il vient, parce qu'on, bon voilà, on apparaît dans le monde comme ça. Pourquoi soi comme être singulier, pourquoi pas quelqu'un d'autre, et on ne sait rien de ces autres qui auraient pu naître, qui sont pas nés, et puis voilà. Donc même si on sait qu'ils sont nos géniteurs, c'est pas pour autant que notre origine est éclaircie. Et d'ailleurs, on se souvient pas des 2-3 premières années, ce qui fait que voilà, l'origine se perd. Et je trouve que c'est important. C'est l'une des manières qui fait que l'on passe du temps à l'espace. Hein. C'est le fait même que ce temps n'est pas d'origine et que la première des réalités, c'est qu'on est là. Voilà. Donc alors. C'est pas vraiment répondre à votre question. Je peux faire un petit peu mieux de ce point de vue-là.
Non, mais c'est déjà justement ancré votre réponse dans le concret, oui.
Et après, je vais quand même essayer de répondre plus précisément parce que peut-être que ça donnera aussi quelques pistes. Je pense que j'ai beaucoup changé d'endroit et que ça a beaucoup constitué ma réflexion d'être souvent pris dans des déménagements volontaires ou pas, y compris entre différents coins de la France, puis Paris, et puis quelquefois à l'étranger. Je trouve ça extrêmement important pour moi, ces différents changements de perspective. Et quand j'ai créé l'Oge de l'immobilité, j'étais à la recherche de formes d'immobilité qui me semble importante, de stabilité, hein, mais qui n'exclut pas justement du tout ce type de changement. Et c'est pour ça que je réponds de manière très spatiale, parce que je vois les choses comme ça. D'où je viens, c'est vraiment tout ce que je vois de ma mémoire, c'est de l'espace, bien plus que du temps. Hein, et c'est... on voit chez Augustin, quand il parle de mémoire mnémotechnique, à quel point finalement pour se souvenir des parties d'un discours, le mieux c'est de s'imaginer un appartement et de passer d'une pièce à l'autre. Eh bien, ça veut dire que la mémoire, elle est surtout spatiale. Donc ces trajets-là, pour moi, sont vraiment constitutifs jusqu'au trajet que j'ai fait pour venir ici vous rejoindre. Et après, où je vais, là, je peux répondre sans aucune difficulté. Oui. Je n'en sais rien. C'est très important. C'est pour ça aussi que Bergson, par exemple, fait partie de mes références. Hein. C'est-à-dire que bah, finalement, on peut s'imaginer des possibles, mais c'est pas ça qui se réalise. C'est justement ce qu'on n'avait pas imaginé comme possible, donc en bien comme en mal. Donc, je sais pas vraiment où je vais. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue philosophique, alors je sais pas vous, mais moi ces derniers temps, j'étais un peu, même complètement désemparé par à la fois la vitesse et la complexité de notre actualité, peut-être bien plus que dans les années précédentes. Mais ma manière de l'aborder, ce sera toujours cette question de l'espace. Et vous disiez qu'en me lisant, vous aviez une impression de concret. C'est parce que je suis toujours un petit peu entre philosophie et géographie, et de plus en plus. Et que la géographie, en ce moment, est passionnante et implique aussi toute la sociologie. Et donc là, je continuerai, ça je crois, que tant que je suis en vie. S'il y a une certitude, c'est celle-là, que je continuerai dans cette voie-là.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Merci Jean Lèbre.
Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, un des chapitres de votre ouvrage m'a particulièrement intéressé. C'est ce chapitre où vous traitez du confinement et qui s'intitule Confin. Vous dites que l'épidémie de Covid-19 et les confinements qu'elle a provoqués ont marqué un moment clé dans le renversement de tous les mouvements et de tous les flux en immobilité. Et un peu après, vous citez Pascal. Et justement, ça m'a d'autant plus intéressé que vous citez cette fameuse pensée. D'où le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Et de là, vous déduisez un paradoxe de la modernité. Et c'est ce sur quoi j'aimerais revenir avec vous aujourd'hui, puisque vous dites que poussant à son terme ce paradoxe de la modernité qui nous rend les distances à la fois immenses et infiniment réduites, Pascal réinvente un nouvel espace sans repère.
Oui. Alors en fait, oui, c'était une phrase qui était très souvent citée au moment du confinement, qui est complexe hein, dans le contexte pascalien, hein, parce que aussi bien chez Pascal, on trouve une affirmation du type « la nature de l'homme, c'est le mouvement », ou encore « le repos, c'est la mort ». Donc c'est sûr que... Mais à côté de ça, donc, le grand drame de l'homme, c'est qu'il ne sait pas rester en repos dans une chambre. Et si on essaie de faire coïncider ces différents aspects, puisqu'évidemment Pascal a pensé tout ça ensemble d'une manière très consciente, hein, c'est que le repos dont il parle dans une chambre est un repos entièrement actif et qui doit être une sorte d'au-delà du mouvement, hein, et qui donc tend vers une activité bien précise, hein, qui est la contemplation, hein, qui lie à la foi, mais qu'on n'est pas obligé de lier à la foi. Enfin, ça, c'est un énorme problème qu'on va peut-être pas que je vais peut-être pas développer tout de suite. Mm-hmm. Mais voilà, dès qu'on parle de repos, c'est ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a, bah, comme des distances, il y en a différents types, et que ce repos pascalien, ça ne doit pas être la mort, et ça doit donc être une sorte de, déjà dans la contemplation, d'une vie d'au-delà de la vie, avant même que ce soit question de foi ou d'espoir. Et c'est pour ça, donc, aussi que dans sa manière même de procéder, Pascal a vraiment lancé la modernité de ce point de vue-là, parce que c'est vrai que c'est la difficulté, cette absence de savoir concernant le repos. Et si je peux insister un tout petit peu là-dessus, parce que c'est un thème que j'avais pour le coup beaucoup développé dans Éloge de l'immobilité, je pense que dans toutes les sociétés, y compris la nôtre, si on tient compte des périodes antérieures, il y a des techniques de repos, mmh. Il y a des techniques de méditation, et il y a des préceptes très précis qu'on apprend sur les manières de se tenir assis, ou quelquefois aussi debout, et même couché, et tout ça s'apprend. Et ce qu'il y a d'assez fou dans notre société moderne, ça tient à la modernité, c'est que ces techniques de repos ont disparu. C'est-à-dire que le repos peut devenir un impératif très fort, comme par exemple pour les enfants à l'école. Tiens-toi tranquille, tiens-toi assis, etc. etc. C'est dur, voilà, la nature de l'homme dans le mouvement. Donc, voilà, alors les enfants, ils bougent, ils ont envie de bouger, et c'est une envie bien compréhensible, qui est indispensable à leur développement cérébral, musculaire, spatial, etc. etc. Mais en même temps, quand on en a 30, forcément, et qu'on veut leur apprendre quelque chose, il faut qu'ils se tiennent tranquilles. Donc, tiens-toi assis, etc. On a tous entendu ça, on est capable, je vois bien que vous y arrivez très bien, aussi à vous tenir tranquille, assis, etc. Mais quand est-ce qu'on a appris ça? Quand est-ce que, à part l'ordre et l'injonction, quand est-ce qu'on a appris cette technique de tenue, en fait, qui existe pourtant, hein, mais qui c'est le propre de cette modernité, qui est pourtant le développement de la technique, de reposer sur ce non-savoir dont parle Pascal, hein, de non-savoir de ce que veut dire tenir en repos. Et donc, du coup, le résultat, c'est qu'on le fait mal aussi, et qu'on a mal au dos, etc. Mais plus fondamentalement, ça veut dire qu'on va concevoir le repos comme une contrainte, et oublier aussi, justement, ce que nous apportent toutes ces tenues immobiles, qui sont pourtant omniprésentes, parce que justement, comme vous le disiez, je pense très foncièrement, la vitesse ne cesse de se renverser en immobilité. Par exemple, on est immobile dans une voiture, on est immobile dans un avion, dans un train. Donc en fait, la technique nous immobilise aussi, on est immobile devant un écran. Et donc, il y a toutes ces techniques qui nous immobilisent, sans qu'on ait de technique, à proprement parler, de se tenir immobile. Et ce paradoxe qu'avait noté Pascal est assez fondamental de notre modernité. Alors, évidemment, il se reposait au moment du confinement. Cette forme, ben voilà, on est coincé chez soi, et maintenant, on fait quoi? Et Ce qu'il y avait d'intéressant, c'était, bon, d'une part, la diversité des situations, hein, qui étaient aussi des diversités sociales considérables. Beaucoup de gens ont insisté là-dessus avant et après le confinement. Ce n'est pas du tout la même chose d'être confiné quand on a de l'espace et quand on n'en a pas. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis après, toute la diversité des solutions que les gens ont essayé de trouver, d'inventer d'une certaine manière à partir de ce qu'ils faisaient déjà, mais quelquefois aussi en faisant des choses qui étaient radicalement nouvelles. Et cette diversité, elle était intéressante. Je veux dire, c'était l'aspect un petit peu qui pouvait faire sens dans cette sorte d'impératif comme ça qui nous tombait dessus.
Oui, je trouve tout à fait très intéressant la question du repos que vous avez mentionnée, Jean Lèbre. Je me demande, en tant qu'enseignant, vous, mais aussi Isabelle Raviolo, aussi Michele Sapoliti, nous avons une sorte d'observatoire privilégié qui sont les étudiants ou nos élèves. La question du repos, moi, il y a cette hyperconnexion continue qui est une... Maintenant, je pose une question un peu plus concrète, un peu plus base. Je m'excuse peut-être aussi pour la simplicité de la question. Mais est-ce que on est dans un temps un peu qui entraîne, selon vous, Jean Lèbre, d'oublier l'importance du repos en tant que aussi temps pour avoir des nouvelles énergies, pour retrouver l'énergie. J'imagine, moi j'ai aperçu un certain plaisir dans l'écriture de ce livre. C'est-à-dire que peut-être aussi, je ne sais pas, ce n'est pas un repos, celle de philosophe dans l'écriture, ou peut-être oui, ça serait. Mais j'ai l'impression aussi, en tant qu'enseignant, avec mes élèves, avec les étudiants en général, qu'il y a une certaine méfiance dans le repos. Il parle aussi, vous savez, de la « fear of missing out », c'est-à-dire la peur de perdre quelque chose. Alors, il faut se reposer, non, jamais, toujours interconnecté. Alors, je voudrais vous faire réagir sur ce point.
Mais en fait, il y a dans cette sorte de zone d'obscurité autour du repos que crée notre modernité, si vous voulez, la contrepartie immédiate, cette sorte d'injonction à la mobilité constante, hein, qui a été beaucoup travaillée par les sociologues. Et de ce point de vue-là, il y a eu une sorte de... d'avancer, je dirais, hein, parce que ce qui est en permanence valorisé, c'est plutôt le mouvement. J'ai été frappé pour la question des sculptures, par exemple, parce que voilà, les gens font encore des sculptures, des peintures, etc. Mais alors, quand il y a des expos, il s'agit de montrer que ce qu'il y a de formidable dans ces sculptures, c'est le mouvement. Mais si c'était le mouvement que les gens avaient voulu montrer, ils n'auraient pas fait de sculpture. Parce que justement, le propre du sculpture, c'est de montrer le mouvement en l'immobilisant. Donc, y a une relation très étroite, en fait, entre le mouvement et le repos. Il n'y a pas du tout une antinomie. Et on a tendance à trop les opposer. Et alors après, est-ce que nos élèves, nos étudiants, de ce point de vue-là, les opposent plus que nous? Je ne sais pas si les changements sont si rapides. Je crois qu'aussi nous appartenons au même monde et que donc nous... Après, on cherche des solutions individuelles, collectives, etc. Mais je ne suis pas sûr que de ce point de vue-là, la différence de génération soit ce qu'il y a de plus considérable. Et moi, ce qui me plaît aussi dans la situation d'enseignement, c'est qu'on est dans la même situation. Pour moi, c'est une situation qu'on partage. Voilà, c'est celui qui parle et celui qui écoute. On est vraiment dans la même situation de tous les points de vue immédiate, globale. On est vraiment dans le... Et c'est pour ça, c'est comme sur la question de d'où je vais. Je ne sais pas plus évidemment où va le monde, mais ce qu'il y a de très net aussi dans nos générations, c'est qu'on a renoncé à dire à la génération qui vient, ou qui est là mais qui est jeune, où va le monde. Notre expérience de ce point de vue-là ne nous sert à rien. Et donc c'est l'expérience du non-savoir qui devient importante. Et voilà, et tout le monde négocie avec ça, avec des techniques actuelles où la jeunesse aussi négocie beaucoup, et quelquefois de manière un peu surprenante. Ce que j'ai lu ces derniers temps, c'est aussi que les jeunes avaient tendance à abandonner une bonne partie des réseaux sociaux, que oui. Ça les intéressait plus trop. Donc, que j'ai travaillé sur Facebook aussi, les sociologues disent que bah, finalement, c'est plutôt les gens âgés qui vont passer pas mal de temps sur les réseaux, bien plus que les jeunes. Donc voilà, et toutes ces situations complexes, on les gère en regardant ce que font les autres et puis aussi en trouvant des situations individuelles. Et ce qu'il y a d'étrange après avec l'enseignement, ce qui me frappe aussi, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que la situation, elle, semble d'une stabilité incroyable. Il n'y a pas beaucoup d'innovations techniques qui ont changé quelque chose à la situation d'enseignement elle-même. Et même quelquefois, il y a une sorte de protection vis-à-vis de la technique, c'est de se protéger des connexions des élèves sur Internet, de leur utilisation de l'intelligence artificielle, etc. Oui. etc. Et ce n'est pas forcément un mal, ça fait une sorte d'oasis ou de havre. Moi, je vois quand je commente Aristote, voilà, alors on a une super édition d'Aristote en France, celle de Tricot. Il y a la moitié, c'est des notes de bas de page avec tous les commentateurs grecs, latins, etc., etc. Et puis, il y a lui qui commente. Et puis, soit on commente devant les élèves. Alors, évidemment, toute proportion gardée. Hein. On a l'impression, soit, et puis les étudiants aussi, d'être dans quelque chose qui se fait depuis plus de 2000 ans. Et ces situations-là, je crois qu'elles sont très importantes pour tout le monde. Elles ne sont pas du tout réactives ou réactionnaires. Elles sont plutôt de l'ordre de presque voir les choses sous l'espèce de l'éternité. Et c'est un privilège de pouvoir le faire. Et voilà, pour moi, c'est surtout ça, cette situation est vraiment importante. Merci.
Merci beaucoup. Et justement, dans ce que vous disiez de notre rapport au monde aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans votre propos, c'est tout ce que vous développez autour du voyage. Du voyage, du tourisme. Et ça m'a fait penser à l'exposition au musée du Jeu de Paume de Martine Parr et de ses photographie très critique sur le tourisme actuel. Et c'est une question de distance et de proximité. Hein. On voit dans ces photos parfois des gens amassés sur une plage, il n'y a plus de place, hein, un parasol après l'autre. Oui. Et de cette question du voyage, vous revenez au passé. Vous dites par exemple qu'il y a cette articulation médiévale de la croisade et de l'errance. Hein, j'ai beaucoup aimé cette manière de revenir à cette époque et de montrer à travers cette généalogie du voyage, de nos modes de voyage, tout ce qui interrogeait aujourd'hui le tourisme. Et vous dites à la page 74 de votre livre que le tourisme d'élite tente de préserver l'authenticité du voyage. Qu'entendez-vous exactement par cette authenticité?
Oui, je crois que pour comprendre les voyages, il faut vraiment les inscrire dans l'histoire. Il faut en premier lieu sortir d'un préjugé qui est assez commun, de penser que c'est que depuis un temps récent que les gens voyagent, découvrent le monde, etc. Il y a toujours eu énormément de transferts, de changements. On pense par exemple, il y a un siècle, les gens étaient dans leur village, ils ne bougeaient pas. Si on prend l'exemple d'un village savoyard, enfin, il suffit à Paris de regarder les balcons haussmanniens, etc. En fait, ils sont faits par des forgerons savoyards, parce que les savoyards restaient en village pendant l'été pour les cultures, la moisson, etc. Printemps-été. Et puis, ils passaient six mois de l'année où ils ne pouvaient pas cultiver, où il y avait de la neige, tout ça. Ils passaient dans des grandes villes à faire de la ferronnerie, du ramonage, etc., etc. Donc, les gens ont toujours beaucoup bougé. Et les strates se superposent, c'est-à-dire que le voyage antique qui avait déjà lieu pour des raisons qui étaient sacrées, y compris vers Olympie par exemple, hein, pour aller voir les Jeux Olympiques, qui était aussi un pèlerinage sacré, Donc les gens bougeaient, ont toujours beaucoup bougé. Alors voilà, il y a cette strate spirituelle du pèlerinage. Il y a des raisons économiques qui ont toujours été là. C'est une grosse motivation de voyage et même du tourisme, hein, où ça existait aussi dès la Grèce antique. Et lié au pèlerinage, ce qui a toujours été aussi un problème pour les autorités religieuses, hein, que les gens aiment plus finalement le trajet que la destination. Et tout ça se mêle, et le tourisme finalement, avec tous les moyens techniques dont il dispose aujourd'hui, a massifié ce qui existait déjà. Et alors après, le problème qu'on retrouve, c'est qu'on se dit, qu'est-ce qu'un vrai voyage ? Et il y a toute une aristocratie du vrai voyage, et qui donne lieu à tous les... des récits, souvent écrits d'ailleurs par des gens avec des particules, hein, toute une aristocratie du voyage, de celui qui fait des vrais voyages, tandis que les autres, voilà, c'est la masse, c'est les moutons. Mais tout le monde aspire au vrai voyage. Il y a un très beau livre d'un sociologue qui s'appelle Jean-Didier Urbain, qui s'appelle L'idiot du voyage. Où dit qu'en fait la mauvaise conscience de ne pas pouvoir accéder au vrai voyage, elle est celle de tous les touristes. Hein, on sait très bien qu'on se fait avoir, on sait très bien qu'on ne voit rien de ce qui fait l'essence de la vie des gens qu'on croise sur place. On sait très bien que tout ce qu'on achète, c'est du toc, c'était fait pour qu'on l'achète. Personne ne se trompe là-dessus. Voilà. Et de ce point de vue-là, je trouve très important de considérer ça quand on parle de restriction des voyages. Parce que, d'accord, on restreint, mais alors qui a le droit de voyager ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'une petite élite déjà mobile, qui a toujours des très bonnes raisons de voyager pour signer des contrats, participer à des colloques, etc., voyage, et puis que la plèbe reste sur place ? D'un point de vue démocratique, ça me semble pas du tout satisfaisant. Et je pense que donc cette... Il faut se dire une bonne fois pour toutes qu'on fait tous des faux voyages, et surtout ces aristocrates en fait, hein, parce que avec leur volonté finalement de se distinguer des autres, au bout du compte, dès qu'ils vont voir un site ou quoi que ce soit, ils retrouvent les autres. La seule chose, c'est que dans leur livre, ils font comme s'ils n'étaient pas là. Donc, mais c'est tout. Donc, c'est juste une volonté de distinction, la question du vrai voyage. Et je pense que celle qui se pose aujourd'hui, c'est comment on limite les voyages. Mais à mon avis, si on les limite, c'est pour tout le monde et de manière absolument égal.
Avec aussi tous les soucis environnementaux qui posent les questions du tourisme, des voyages en général, oui.
Ah oui, le tourisme détruit beaucoup.
Oui.
Il rend tous les voyages très désagréables pour tout le monde. Le surtourisme, c'est très pénible quand on voyage. Et ça a des conséquences écologiques terribles. Donc forcément, oui, ça veut dire qu'on limite. Et qu'on limite pour tout le monde et pour des raisons écologiques qui sont assez évidentes.
Alors maintenant, on va passer une chanson. Passers by, Gero, j'espère de bien prononcer. Et après, on recommence notre émission avec Jean Lèbre.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
A song that I offer to all of the women you love for a moment, a brief secret time. To those that you scarcely admit when a different destiny led them to places you can even find. That you saw for an instant appear at her window quite distant and suddenly vanish away. A slim silhouette on the red line so gracefully faded for all time, filled you with joy. Come to stay.
train you were traveling, whose beautiful eyes left you marveling, and shortened the journey so much. Perhaps you're alone and understood her. You watched her get out, but you couldn't even give a soft hand one last touch. The woman already bespoken, who find that their lives are mere talking for someone that seems not to care. In a moment of madness, describe the unbearable sadness.
Grand merci pour cette chanson Passed By Giro. Donc si j'ai bien compris, une chanson qui a été adaptée par Les Passants de Georges Brassens, n'est-ce
oui.
pas Jean Lèvre
mmh.
Et pourquoi avez-vous choisi cette chanson pour l'émission qui est Vous êtes dévié?
Oui. Alors il y a plusieurs raisons, parce que vous me demandez une chanson qui à la fois disait quelque chose de moi, de mes recherches. Alors pour ce qui est de moi, c'est une chanson de Georges Brassens. J'ai une partie de ma famille vient de du côté maternel vient de Sète, et puis après elle est reprise par un Marseillais, puisqu'il chante en anglais, mais c'est un Marseillais. Et ma mère est née à Marseille, donc voilà, ça faisait des ça faisait du point de vue de la temporalité, mais évidemment ici c'est l'espace, je dirais, qui prend le dessus. Mmh. J'aime beaucoup les reprises. J'aime beaucoup quand les choses sont reprises, sont relayées de manière très différente. Je trouvais que c'était une bonne idée de reprendre les passantes de cette manière-là. Il y a un thème que j'aborde dans mon ouvrage, c'est la question de l'amour de loin, qui était un thème médiéval, où forcément l'aimer et eux étaient forcément lointaines, très, très idéalisées, et que le véritable amour était dans cette distance-là. Et en quelque sorte, les corps eux-mêmes ne devaient jamais véritablement se rapprocher. Alors évidemment, cette idéalisation, elle peut avoir un côté extrêmement ambigu. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans cette chanson, c'est que je pense qu'elle n'est pas particulièrement genrée, pas spécialement patriarcale, qu'elle pourrait très bien s'inverser un petit peu de toutes les manières et dans tous les sens, parce qu'elle parle elle parle pas tellement d'idéalisation, mais de rencontre. Et du fait que une rencontre, ça peut être un seul instant, et puis après les gens se séparent, se revoient plus. C'est un des modes de la rencontre. Et alors il y a quelque chose que dit Brassens, c'est que bon, si on réussit sa vie, on n'y pense pas à toutes ces rencontres qui finalement, d'une certaine manière, n'ont rien donné, mais en même temps ont donné quelque chose. Mm-hmm. Tandis que si on manque sa vie, on se dit on le regrette. Je pense que l'alternative est trop forte. Je pense que toutes les vies sont à la fois, il y a des vies qui échouent pour des raisons externes, psychologiques, etc., ou qui réussissent. Mais en fait, c'est sûr qu'on n'est pas dans une alternative du genre de celle que pose Macron. Il y a ceux qui réussissent, puis il y a ceux qui ne sont rien. Je pense que les choses se passent pas comme ça. Je pense que tous ont réussi certaines choses et on en rate un bon nombre. Et que c'est aussi ce que nous dit cette chanson de toutes ces de toutes ces personnes qu'on a à peine croisées, qu'on n'a pas su retenir, mais si on savait retenir toutes les passantes ou tous les passants qui nous plaisent, je crois que ça ferait quand même beaucoup de monde autour de nous, hein, peut-être presque un peu trop. Donc c'est très bien aussi de les laisser s'échapper. Et voilà, il y a quelque chose comme à un moment une proximité, un éloignement, ça me semble vraiment important pour comprendre ce qu'il en est de la distance qui est entre nous.
Oui. Justement, vous avez introduit un peu la thématique que nous aimerons bien aborder, c'est-à-dire la question de l'amour et de l'amitié qui touche la seconde partie de votre livre. Et alors, j'aimerais bien lire un passage, on est à page 57, sur l'amour. Vous essayez aussi de donner pour faire un peu l'analytique que je suis, une redéfinition de l'amour, peut-être aussi, et vous écrivez, dès sa naissance, il demande de la distance, et ne cesse d'en redemander pour ne pas étouffer. Il y a besoin d'air et besoin d'air. Il exige la rencontre, imprévisible, hasardeuse, qui n'est donc pas simplement celle de l'inconnu ou de l'inconnu, mais qui est elle-même, dans son nouveauté, ne pouvait être connue avant d'être rencontrée. Après, il y a une magnifique citation de Blanchot. La rencontre nous rencontre. Au point de coïncidence, qui n'est pas un point mais un écart, c'est la non-coïncidence qui intervient. Alors j'aimerais bien vous faire réagir sur ces passages, parce que c'est bien vrai. Après, il y a énormément de philosophes dans ces chapitres. Je pense aussi à, comme dans les autres bien sûr, mais je pense aussi à Lévinas, et la question de la dépendance heureuse que vous mentionnez. Et il y a bien sûr une référence très chère à Isabelle Raviolo, à moi, Proust. Vous êtes dans un lieu plein de Proustiens. Mais justement, et après, il y a toutes les nuances liées aussi à la question de l'amour, mais aussi à la question de l'érotisme, de la sexualité, qui porte après à l'amitié quelque chose d'encore de différent. Mais j'aimerais bien vous faire réagir sur ce passage, sur cette redéfinition de l'amour. Donc naissance, la distance, la rencontre, l'imprévisible. Bon, c'est quoi, pourquoi l'amour dans cette réflexion autour de la distance, Jérôme Lèbre?
Oui, elle commence assez tôt dans l'ouvrage, puisque je dirais que je pars de l'idée que les êtres fusionnent pas, et donc qu'on est toujours de toute façon à une certaine distance des autres. Et puis après, je me demande ce que c'est qu'un lien affectif, en utilisant beaucoup la théorie jungienne, qui me semble importante parce qu'elle repose sur l'habitude. Et qu'on peut se dire ça, on peut dire que le lien affectif, il repose sur la fréquence et sur l'habitude.
Sur le voisinage, est-ce que je peux dire ça?
Oui, sur, et aussi voilà, oui. Sur le voisinage dont j'ai parlé aussi en référence à une philosophe que j'aime beaucoup, qui est une amie, qui est Hélène Leuillet, où on s'est rendu compte, alors on s'est rencontrés, puis on s'est aperçu dans un colloque, puis on s'est aperçu en rentrant qu'en fait on était voisins, donc ça, c'était amusant aussi. Et d'une certaine manière, ça suffit. La proximité répétée, la récurrence suffit à faire naître des sentiments. Je pense bien, empiriquement, ça explique aussi que bon nombre de rencontres comme ça soient dues à cette proximité-là. Évidemment, l'autre pôle étant celui de la rencontre par Internet, qui peut aussi donner des relations très, très réussies. Mais voilà, il y a aussi cette possibilité qu'à force de voir les gens, on les aime. Bon. Mais ça ne peut pas être simplement ça. Et voilà, et c'est là que commence justement cette question du fait que ce qui constitue l'amour, si ce n'est pas la simple proximité et la simple habitude, parce que ça, je pense que ça ne satisfait personne de voir l'amour comme ça. même si c'est un point important, c'est pas suffisant. Donc, ce qui crée l'amour, ou un amour mais disons, une des dimensions de l'amour, c'est aussi cette distance. Le fait que les autres sont inattendus, qu'à un moment donné, ils viennent sur un fond de distance, et là, chez Proust aussi, c'est évidemment extrêmement présent. Et que d'une certaine manière, pour que l'amour soit réussi, cette distance demande en permanence à être maintenue. Et de ce point de vue-là, justement, chez Proust, il y a ce fameux passage que j'adore, là, sur la première fois où il s'embrasse avec Albertine, et où en fait, il se rend compte qu'un baiser, c'est la catastrophe. C'est vraiment...
Quelle déception.
C'est les lèvres qui pressent contre les dents, ça fait mal, c'est désagréable, c'est... et on voit même plus le visage de l'autre. Donc, et donc voilà, cette distance-là fait la rencontre. Et si la rencontre doit continuer comme rencontre, il faut qu'elle soit maintenue. Et ça me semble toujours très important, pas d'un point de vue métaphorique, d'un point de vue spatial.
Spatial, oui. Et de l'amour, on passe à l'amitié, Isabelle Raviolo.
Oui, et de l'amitié, vous dites qu'elle s'accommode de toutes les distances, Jérôme Lèbre, parce qu'il est l'au-delà. Le plus proche de la familiarité, son écart sensé. Ce qui est intéressant, c'est, et qui m'a retenu dans la lecture des pages que vous consacrez à l'amitié, c'est ce concept de discrétion que vous développez. Il m'a beaucoup intéressé. Vous dites que ce n'est pas dans les confidences que se réalise l'amitié, au fond, mais bien plutôt dans la discrétion conduite jusqu'au silence. La discrétion est le pur intervalle qui, de moi à cet autrui, qui est un ami, mesure tout ce qu'il y a entre nous, l'interruption d'être qui ne m'autorise jamais à disposer de lui, ni de mon savoir de lui. Et cette citation de Maurice Blanchot, de son livre « L'amitié », paru aux éditions Gallimard dans les années 70, fait écho dans vos pages à Sénèque et à ses très belles lettres à son disciple Lucilius. J'aimerais revenir justement avec vous sur cette notion de discrétion. Qu'est-ce qu'elle dit de l'amitié et de son sens profond pour vous ?
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Je pense, bon, il y a déjà de l'amitié dans l'amour, et puis après il s'agit de savoir comment ça se continue en quelque sorte sans que ce soit véritablement de l'amour, ce qui fait la différence. Et justement, ce qui fait la différence, c'est ça, c'est que l'amitié s'accommode de toutes les distances, c'est-à-dire que on souffre pas forcément de voir ses amis loin, hein. C'est ce que dit Sénèque à Lucilius, même en poussant un peu loin le paradoxe, en disant mais c'est très bien qu'on soit pas ensemble, plus on est loin l'un de l'autre, et plus on pense l'un à l'autre, et plus on peut s'écrire aussi. Sans pousser le paradoxe jusque-là, c'est bien le propre de l'amitié que, alors on le dit souvent sur le temps, mais c'est vrai aussi sur l'espace, que un ami proche peut aussi être un ami lointain dans l'espace. Ça ne pose aucun souci. Ça n'atteint pas l'amitié. On dit loin des yeux, loin du cœur, mais pour l'amitié, ça joue moins ou bien moins. Et donc, la distance est déjà constitutive de l'amour, mais c'est peut-être l'amitié qui le montre le mieux de ce point de vue-là. Et dans cette distance, donc, il y a la discrétion. Parce que justement, c'est important de ne pas entrer trop dans l'intimité de ses amis, qu'ils restent aussi des êtres, qu'il y ait une certaine distance qui soit ménagée dans l'amitié. Ce qu'on ne doit pas viser, c'est de tout savoir de ses amis, ou même qu'ils nous disent tout. On a besoin qu'il y ait cette part de secret, d'intimité, qui nous constitue nous et qui ne soit pas, entièrement partagée. Et c'est ça la discrétion qui est aussi une notion spatiale à l'origine, hein, d'une forme d'écart qui est créée entre deux individus et à partir duquel est possible une tension. Hein, s'il n'y a pas cet écart-là, il n'y a pas véritablement de tension, il n'y a pas d'étincelle.
Parce qu'il y a un espace discret, on dit, au continu.
Et oui.
Et
oui,
justement, pour vous, si j'ai bien compris, Jean-Lèbre, alors l'amour, comme si l'amitié, c'est toujours une question d'espace discret. Discret spatialement, oui. Mais discret aussi dans la dimension intime que vous avez décrite.
Oui, il faut, en effet, faut pas trop de continuité. Hein, l'espace est discret par définition, ce que je le dis dès le début. Mais d'une certaine manière, il doit le rester. Et même de toute la question de ce que veut dire cohabiter aussi, hein, avec les voisins ou avec quelqu'un ou en famille, où il y a toujours le risque d'une forme de trop de proximité qui est justement contrebalancée par le fait qu'on cohabite toujours avec plus que la personne avec qui on vit. C'est-à-dire qu'en effet, il y a le voisinage, il y a la rue, il y a le monde, il est là à l'intérieur de chaque appartement et c'est ce qui fait que... qu'il y a véritablement cohabitation.
Justement, à propos de la cohabitation, Isabelle Raviolo, on disait un passage important de ce livre aussi est dédié à la question des migrants. Et en ce qui concerne la coexistence, la cohabitation, le voisinage, même la ville qui amplifie pas mal aussi des différences, des écarts, pour utiliser un mot que je pense vous est cher, hein, Jean Lerre. Et alors, à page 78, vous écrivez « Les migrants ne voyagent pas ». Ils changent d'habitation ou tentent d'en changer. La majorité va le moins loin possible dans un pays voisin au niveau économique comparable. L'immigration n'est donc ni une expansion ni une invasion. C'est très généralement le passage d'une ou deux frontières. Frontières, encore, on est toujours dans le vocabulaire de l'espace, de la spatialité, que ce soit pour améliorer son niveau de vie ou pour fuir. Un pays fuir encore une fois, fuir, frappé par une crise, une guerre, des désastres climatiques. Alors, pourquoi, selon vous, Jean Lèvre, l'émigration défie la distance sans jamais la dépasser? Pourquoi? Ça, c'est une énorme question. Mais c'est que j'ai lu dans vos lignes, c'est un peu l'immigration défie la distance, c'est vrai, mais on n'a jamais la capacité de dépasser complètement la distance.
Oui. Alors la migration, elle demande, c'est un peu comme le tourisme, et c'est pas étonnant parce que c'est l'opposé du tourisme, donc ils vont aussi partager des traits, ne serait-ce que par complémentarité et par négation. En tout cas, ce qu'ils partagent, c'est qu'ils sont accompagnés de toute une mythologie qui peut être négative, qui peut être positive, mais qui passe aussi à côté du phénomène. Alors, bon, les mythologies négatives, on les connaît, hein, comme quoi il y aurait de plus en plus de migrants, ce qui est en fait évidemment faux, vu le nombre de politiques anti-migratoires, etc. Et alors, là, du côté positif, mais gênant et qui se retourne très facilement, il y a l'idée que justement les migrants, ce qui les définit, c'est le voyage. Voilà. Donc, oui. Alors que les migrants, c'est avant tout des gens qui ont été chassés de chez eux, qui ne pouvaient plus vivre chez eux et qui cherchent à s'installer ailleurs. Voilà. Si on les prend comme des voyageurs, on ne comprend pas l'urgence pour eux, la nécessité de se trouver un endroit où rester. Voilà. Leur but, ce n'est pas de bouger, c'est de rester.
Justement, pardon, oui. Je précise avant d'arriver justement malheureusement à la conclusion de notre émission que vous faites plusieurs précisions très importantes concernant aussi les typologies. Je déteste ce mot, je m'excuse beaucoup, mais il y a plusieurs typologies des migrants. Hein, vous portez justement l'exemple des migrants provenant de l'Ukraine. Et aussi de l'accueil qu'ils ont eu en Europe. Et par contre, justement, nous pensons à la Syrie, mais aussi nous pensons à l'Afghanistan, nous pensons à des endroits qui sont un peu les pays d'origine.
Ou aux personnes noires qui venaient d'Ukraine aussi.
Oui, aussi, avec toute la discrimination qu'ils ont subi. Donc, nous conseillons aussi à nos auditrices et nos auditeurs de lire vos considérations, aussi la problématisation que vous essayez de donner aussi autour de la question de migrants. Mais justement, on est, malheureusement, chère Isabelle Riolo, on est vers la fin de notre émission. Alors, on fait, je ne sais pas si c'est un petit cadeau, mais de toute manière, c'est un petit questionnaire pas trop rationnel pour Jean Lèvre, c'est-à-dire strictement interdit de penser trop aux réponses. Et alors, ils sont 11 petites questions. Je commence avec la première, Isabelle Raviolo. Alors, quel est votre rêve d'enfant?
De voler, sans doute. Bon, le terme est ambigu.
Non, mais ça va.
On le comprendra comme on voudra.
Super. Deuxième.
Qu'avez-vous envie de dire à la jeunesse?
Alors, j'ai pu le développer un petit peu tout à l'heure, mais qu'en fait, on est dans le même bateau. Ça, j'en suis absolument persuadé. Et que c'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on en sait plus sur où on va, même si on a quelques outils peut-être pour exprimer ce désarroi.
Troisième, quel est votre plus grand espoir?
Mon plus grand espoir, je suis pas sûr que espérer change quelque chose. Moi, je cherche beaucoup je pense que c'est très important de comprendre ce qui se passe maintenant. Après, ce que j'espère j'espère justement, c'est que cet effort de compréhension soit celui de beaucoup de gens, je crois, mais il y a aussi beaucoup de gens qui affirment beaucoup et qui réfléchissent pas, qui en particulier ne s'informent pas, ne regardent pas les données de ce dont ils parlent. Et c'est évidemment un grave problème, y compris politique.
Merci. Oui. Quelle couleur pourriez-vous associer à votre parcours intellectuel ?
Le rouge, évidemment.
Alors, est-ce qu'il y a des choses qui restent mystérieuses pour vous ? Bon, je pourrais moi-même répondre.
Tiens, en fait, il y a le rouge, puis il y a le noir aussi, hein, parce que je suis de plus en plus anarchiste. Hein.
Ah, ok.
Et vous me disiez ? Oui ? Je ne sais pas si on a le temps.
Oui, on a encore deux minutes. Oui.
Deux minutes, avez-vous des talents cachés ?
Je ne suis pas sûr du tout, alors ils me sont cachés à moi-même.
Alors, on fait la dernière peut-être, oui. Alors, si vous étiez ministre de la Culture, quelle première décision aimeriez-vous prendre ?
Eh bien, je crois qu'on peut multiplier par 10 sans problème le budget de la culture, qui est le plus faible de la France, pour une activité qui, elle, joue un rôle considérable dans le produit national brut. Donc, ce serait sans doute ma première décision, qui serait immédiatement admise par Bercy et par le Premier ministre. J'en doute pas une seconde.
Merci beaucoup, Jérôme Lèbre. Merci à vous.
Merci. Alors, nous invitons nos éditrices et nos auditeurs à la prochaine émission de Philosophie au présent qui aura lieu le 6 juin. Et nous aurons aussi le plaisir d'avoir comme animateur Emmanuel Faye en compagnie de ses invités. Nous remercions beaucoup Jean Lèbre et à la prochaine. Merci.
FM 93.1.